Bonjour à tous, on va aujourd'hui donc, on n'a pas terminé le personnage d'Élisée, il y a encore beaucoup de choses, on fera ça l'année prochaine, donc voilà, si vous voulez la suite, ce sera l'année prochaine. Pour l'instant, on est dans 2 Rois, chapitre 4 et verset 18, verset 8. C'est important de se rappeler, donc Élisée était un prophète qui a succédé à Élie. C'est pour ça qu'au départ on a terminé la vie d'Élie en début de section, et puis maintenant on est en plein dans la vie d'Élisée et on le terminera probablement l'année prochaine au mois de janvier ou février comme d'habitude. Alors on va lire 2 Rois chapitre 4 verset 8 à 17. D'abord, le texte est assez long, donc on va le couper en morceaux, ça va être plus simple. Quand vous avez une histoire assez longue à travailler dans la Bible, n'ayez pas peur de le faire par petits morceaux pour bien vous imprégner du texte, bien le connaître. Parfois c'est nécessaire, c'est ce qu'on va faire ce matin. Donc, un jour Élisée passait par... Alors, ma Bible dit Shunem, d'autres disent Sunem, c'est pas grave, moi j'ai plutôt tendance à dire Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe constamment chez nous est un saint homme de Dieu. Je t'en prie, faisons une petite chambre en dur à l'étage et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un porte-lampe. Quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où Élisée revint, il se retira dans la chambre à l'étage et s'y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, donc le serviteur ne devait pas être au même endroit, je pense qu'il était peut-être avec les serviteurs de la famille, « Appelle cette Tsunamite. » Géasi l'appela, elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, je te prie, tu as fait beaucoup de choses pour nous. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Il était bien introduit dans les milieux importants, Élisée. Il dit, elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Curieuse réponse. Il dit alors, « Mais que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette époque-ci, l'année prochaine, tu auras un fils dans tes bras. » Elle dit alors, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me mens pas, à moi ta servante. » Cette femme fut enceinte, elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Alors, j'aime beaucoup ce texte, ça me rappelle mes souvenirs de quand j'étais petite, on le faisait régulièrement à l'école du dimanche. C'est une histoire merveilleuse qui commence. Alors, on va regarder un petit peu, parce qu'il y a quand même un contexte social qui est différent d'une autre. Donc, si on veut bien comprendre le texte, on va commencer par là. Donc, vous vous souvenez, le prophète Élie, il passait souvent dans les communautés, ce qu'ils appelaient les communautés de prophètes, en Israël particulièrement, parce que vous vous souvenez que les 10 tribus du Nord... Ils ne voulaient pas que le peuple aille adorer à Jérusalem, au temple. Du coup, ils avaient créé des autels, ils avaient créé entre autres un veau d'or. Et voilà, voici celui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, aïe aïe aïe. Et donc, il restait quand même des gens fidèles qui, peut-être n'allaient pas à Jérusalem pour toutes sortes de raisons, mais qui continuaient à adorer l'Éternel, qui ne pliaient pas le genou devant les Baals. Vous vous souvenez, qu'est-ce que Dieu avait répondu à Élie ? Il y en a 7000 qui n'ont pas plié le genou devant les Baals. Élie se croyait tout seul. Donc il y avait effectivement des gens qui restaient fidèles à l'Éternel et dans le royaume d'Israël. Et donc il semble, ce que l'on comprend dans les textes, c'est que Élie avait l'habitude de passer dans ces villes où il y avait des communautés de juifs fidèles à Dieu. Et Élisée qui lui a succédé, eh bien, il a fait la même chose. Donc ça veut dire qu'il voyageait beaucoup. À pied, peut-être à dos d'âne, mais c'était quand même bien fatigant. Et il se trouve qu'il passait régulièrement dans les mêmes villes ou les mêmes villages, ce qui fait que tous les habitants le connaissaient, ceux qui adoraient l'Éternel et les autres aussi. Alors évidemment, à l'époque, il faut bien penser, il n'y avait pas beaucoup d'auberges. Et Élisée, comme beaucoup de voyageurs, acceptait l'hospitalité des habitants. Alors à Sunem, on découvre dans ce texte, c'est une femme de la haute société, visiblement riche, et qui était très respectueuse du ministère d'Élisée. Elle l'a d'abord invité à manger quand il passait. Il n'y avait pas de supérette, hein. il fallait se débrouiller pour manger. Il faisait chaud, donc ce n'était pas évident de garder de la nourriture. Donc, il s'arrêtait pour manger chez cette femme. Comme il passait souvent par là, il avait pris cette habitude. Et j'imagine, parce qu'il faut se remettre un petit peu dans l'ambiance, que cette femme, elle a dû l'observer. Elle a dû l'écouter. Pour comprendre ce texte, il faut se remettre un petit peu dans l'ambiance, hein. Vous imaginez recevoir quelqu'un d'important comme Élisée, qui a vécu toutes sortes d'expériences avec Élie, et puis récemment on a vu les miracles qu'il a vécu, elle a dû l'observer. Je pense, on sent que c'est quelqu'un qui réfléchissait. Et elle a conclu, sa conclusion sur Élisée, c'était, elle le dit à son mari, un saint homme de Dieu. Alors franchement, cette expression-là, à notre époque, ça passe pas très bien, parce qu'on a usé et abusé du mot saint dans les milieux religieux. Et donc je vous rappelle que saint, à la base, mon pasteur répétait toujours ça, et c'est resté dans ma tête, saint, ça veut dire mis à part et consacré à. Oui, Élisée était un homme mis à part, ça c'est clair. Élisée était clairement un homme mis à part par Dieu, et c'était un homme qui était consacré à Dieu. Mis à part pour Dieu et consacré à Dieu. Ça, c'était sa conclusion. Et ça se voyait, je pense, dans son comportement, dans ses conversations. Est-ce qu'il parlait beaucoup avec elle? On ne sait pas, mais c'est possible, on va le voir plus tard. Parce que visiblement, il y avait quand même un décalage, hein, entre cette femme de la haute société et le prophète. Ils étaient tous les deux très importants dans leur milieu respectif, mais on voit qu'à chaque fois, il utilise Géasi, son serviteur, va dire à la femme, appelle-la, au lieu de, je ne sais pas, d'y aller lui-même. Donc, on sent qu'il y avait un certain protocole. Elle va donc demander à son mari de construire sur le toit une pièce supplémentaire. Alors, c'était courant à l'époque, ouais, je me suis informée, c'était courant à l'époque, vu que les toits étaient plats, c'était assez facile de construire une pièce en haut. En général, ça se faisait soit pour la famille qui s'agrandissait, soit pour la famille qui venait en visite, pour toutes sortes de raisons, ou quelquefois pour se mettre à part. Ça vous dit rien, la chambre haute? Ah, voilà. Où est-ce que Jésus a fait la dernière scène? Où est-ce que le Saint-Esprit est descendu? Cette notion de chambre haute, donc, était sur le toit de la maison, qui pouvait être assez grande. Dans ce cas-là, elle ne devait pas être énorme, mais voilà, pour se retirer un petit peu à l'écart du touhou-bouhou, de la vie courante, des serviteurs, des animaux, etc. Donc, son mari est d'accord, visiblement, et il construit cette chambre pour qu'Élisée puisse y passer la nuit, après manger, et reprendre probablement son voyage. Les gens commençaient à voyager très tôt le matin, parce qu'il faisait moins chaud. Ça se comprend. Et donc, c'était plus pratique pour lui de dormir et de partir très tôt le lendemain matin, dès qu'il faisait jour. Donc là, en plus, elle a compris qu'il fallait qu'il puisse s'y retirer, dit le verset 10. Donc, il fallait qu'il puisse avoir un endroit calme pour prier. Et d'ailleurs, ça revient beaucoup dans ce texte, vous allez voir. Et Jésus, vous vous souvenez, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et on va voir ça assez souvent dans ce texte. Donc, il sera au calme pour prier, loin du bruit. Élisée bénéficie de son hospitalité, mais quand même, il est bien élevé, Élisée. J'aime bien. Franchement, je trouve sympathique, Élisée. Et il voudrait bien lui manifester quand même un peu de reconnaissance. C'est pas parce que lui, c'est le grand prophète, il a une grande réputation, il est bienvenu à la cour. À cette période-là, le roi n'était pas comme Acab, et connu aussi par le chef de l'armée, visiblement, il ne considère pas que c'est un grand personnage et que tout lui est dû. Non, non, non. Élisée est un véritable homme de Dieu. On pourrait parler de beaucoup de ce problème aujourd'hui, mais ce n'est pas la question. Il veut montrer sa reconnaissance. Il veut montrer qu'il apprécie. Et d'ailleurs, il le dit à son serviteur. Enfin, il le dit, tu as, il le fait dire par Géasi, « Tu as fait beaucoup de choses pour nous, que peut-on faire pour toi ?» Il est reconnaissant. Ça, j'ai beaucoup apprécié, je trouve que c'était sympa de sa part. Et il lui pose encore cette question. Vous vous souvenez la dernière fois, il avait déjà posé sa question, « Que puis-je faire pour toi ?» Et vous vous souvenez Jésus, combien de fois il a dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Hein, on retrouve ces questions dans la Bible. Et ça parle. Dieu, Jésus aime bien savoir qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut. Il aime bien qu'on soit précis. Et c'est important. Seigneur, bénis-moi, oui, bien sûr. Mais que veux-tu que je fasse? C'est important quand on prie d'être assez précis. Pas trop parce que le comment, ça appartient à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on attend? Alors, il suggère la possibilité de parler au roi ou au chef de l'armée, qui indique bien son influence. Mais elle répond, elle est curieuse sa réponse, hein. J'habite au milieu de mon peuple. Alors, les commentateurs bibliques se partagent un peu. Ou ça veut dire, qui suis-je pour demander quelque chose? Donc c'est une femme, malgré son rang social, qui est très humble. Ou bien alors, je n'ai besoin de rien. Voilà, on peut choisir entre les deux. Moi je penche pour je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Et à partir du début de cette histoire, on peut mieux cerner le personnage de la Tsunamite. Elle est riche, de conditions élevées, mais c'est une femme extrêmement généreuse. Elle prend soin du serviteur de Dieu matériellement, et c'est ce que la loi attendait des gens aisés. Rappelez-vous ce qu'on a lu la dernière fois, si ton frère devient pauvre, soutiens-le, tu le soutiendras, etc. L'idée était que les gens riches, bien sûr qu'ils profitent de leur richesse, c'est pas interdit dans la Bible, mais qu'ils s'en servent aussi pour la générosité, pour prendre soin, pour l'hospitalité, etc. Et elle était dans cette catégorie de gens riches qui étaient généreux. On voit aussi qu'elle respecte le ministère d'Élisée. Elle voit qu'il a besoin d'être à l'écart pour prier. Et surtout, elle n'attend rien en retour. Et ça... c'est formidable. Elle pourrait dire, oui, moi je reçois le prophète chez moi, il a ressuscité le fils de la pauvre veuve, il a multiplié l'huile, il a fait ceci, il a fait cela, voilà, comme ça je serai bénie, hein, voilà. Elle n'est pas du tout dans cet esprit-là, elle ne veut rien en retour. Et ça m'a fait penser à Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et pas pour les hommes. Elle ne l'a pas fait pour Élisée, parce qu'Élisée était un grand homme, un grand prophète, blablabla, successeur d'Élie. Elle l'a fait parce qu'elle sentait que c'était ce que le Seigneur voulait, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est un de mes versets favoris, j'en ai beaucoup comme ça, hein, que je répète souvent, mais c'est vrai que c'est un verset qui m'a toujours touchée. Quand je n'ai pas envie de faire quelque chose me casse vraiment les pieds, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et pas pour les hommes. C'est un verset qui soutient beaucoup dans le ministère. Alors, ce qui compte pour elle, c'est son service pour l'Éternel. Elle est totalement désintéressée et elle ne profite même pas de la proposition d'Élie. Elle aurait pu quand même profiter, mais elle ne l'a pas fait. Et là, notre pauvre Élisée, il est embêté. Oh mince, je voulais manifester ma reconnaissance, mais comment je vais faire? Vous savez, parfois c'est difficile, hein, quand arrivent les anniversaires, qu'est-ce que je peux bien offrir à cette personne? Ben voilà, c'est compliqué. Et il est ennuyé, mais que faire pour elle? Alors, il en parle avec son serviteur. Géasi, il est un peu spécial. Hein. Au fil des années, vous allez voir, Géasi, il est spécial. Mais là, il écoute et dit, elle a fait beaucoup de choses pour nous. Que faire pour elle? Et Géasi, ben, il sert d'intermédiaire, mais il n'a pas tort, là. Il a constaté qu'elle n'avait pas d'enfant et que son mari était âgé. Alors, vous savez, les serviteurs, ils étaient peut-être plus... dans le quotidien, dans le gnangnan de la vie quotidienne, dans la routine. Il a remarqué ça. Et alors vous allez me dire, et alors, bon. Mais vous savez, à cette époque, c'était super important. Parce que la notion du nom qui va s'éteindre, c'était très important. Alors nous, on y est peut-être beaucoup moins sensible aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui disent, moi je ne veux pas d'enfants, etc. C'est sûr que ce n'est plus du tout la préoccupation des gens que le nom de la famille demeure. Mais là, à cette époque, c'était très important, et on en parle beaucoup aussi dans la loi. Le nom de cette famille allait s'éteindre. L'héritage, peut-être, irait à des étrangers, s'il n'y a pas de cousins, s'il n'y a pas de... Voilà. Et elle se retrouverait, elle surtout, veuve et sans protecteur. C'est un problème à cette époque-là. Il n'y avait rien, hein. Il n'y avait pas de retraite, de pension, de sécu, d'alloc, de tout ce que vous voulez. Rien. Elle dépendrait totalement de la générosité des gens. Alors, bon, là, financièrement, peut-être elle s'en tirerait, mais pas de protecteur. Si quelqu'un voulait grignoter un peu ses champs, ou... elle n'avait personne pour la protéger. Alors, autre chose importante, le prophète, et ça c'est quelque chose que j'aime énormément chez Élisée, c'est pas un don magique, sa prophétie. Vous savez, le voyant qui est bizarre et qui va tout deviner, tout... Non, non. Élisée est quelqu'un de parfaitement normal. Quand Élie est allé chercher, il est en train de cultiver ses champs. Bon, il a brûlé sa charrue, il a sacrifié ses bœufs pour indiquer que c'était fini, il passait à une autre vie. Mais il a gardé son bon sens et son relationnel aussi. Vous savez, parfois on a l'impression que ces hommes de Dieu vivent sur une autre planète et puis bon, on ne peut pas leur parler ni de la pluie, ni du beau temps, ni de choses trop matérielles, etc. Et il disait, moi je trouve qu'il est rempli de bon sens. Vous avez vu avec l'huile, qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, il a un relationnel pas mal avec les gens. Il écoute et il transmet ce que Dieu lui dit, mais il reste un homme de son temps. Il est ancré dans la réalité quotidienne. On a pu le voir avec la pauvre veuve la semaine dernière. Il vit dans le naturel. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est à ça que Dieu nous appelle. On vit une vie naturelle, qu'on le veuille ou non, hein, quand même. Mais il permet au surnaturel de Dieu d'intervenir dans sa vie. Vivre naturellement, mais avec le surnaturel de Dieu. C'est compliqué, hein ? C'est deux domaines différents, opposés, mais un chrétien... Ben, il est un peu de ces oiseaux rares qui doivent vivre dans le naturel. Et là, vous savez, si vous lisez Paul aux Romains ou les épîtres de Paul, vous voyez qu'il nous parle dans le naturel, hein, sur la façon de se comporter, etc. Et à côté de ça, il faut être ouvert à ce que le surnaturel de Dieu puisse intervenir quand Dieu l'a décidé. Et ça, chez Élisée, c'est formidable. Et c'est à cet équilibre qu'on aspire en tant qu'enfant de Dieu, hein. Ne pas refuser le surnaturel de Dieu, mais vivre aussi normalement, comme un homme naturel. Alors, la femme, on a vu, ne répond pas à la question d'Élisée, vraiment. Elle dit simplement, j'habite au milieu de mon peuple, j'ai besoin de rien. Alors, je me suis posé la question, mais au fait, elle, visiblement, elle aurait bien aimé avoir un enfant. Comment, pourquoi elle ne dit pas? Pourquoi elle ne dit pas que Dieu m'accorde un enfant? Alors, c'est ma conclusion, c'est pas forcément, c'est pas écrit en toutes lettres dans la Bible, mais il est possible qu'elle a peur d'être déçue. Vous avez vu quand elle lui dit « Ne me mens pas ». On va le voir après. Elle a peur d'être déçue, elle y croit presque plus. Elle a certainement espéré pendant des années. Et je crois que quelque part, moi j'ai l'impression, alors là, relisez le texte, vous verrez, qu'elle a mis un trait dessus. Donc, as-tu besoin de quelque chose? J'ai besoin de rien. Contrairement à Anne, la mère de Samuel, vous vous souvenez, hein, elle était au temple, elle priait tellement fort que le prêtre pensait qu'elle était ivre et il la rudoie. Elle dit non, mon Seigneur, je veux un enfant, etc. Sarah, elle avait ri carrément. Elle aussi, elle avait mis un trait dessus. Vous vous souvenez, quand les anges sont venus, elle avait mis un trait dessus et elle a carrément rigolé, quoi. C'est... des gens bien humains. Hein. Alors moi, ce que j'aime bien dans la réponse d'Élie, c'est qu'il ne cherche pas à discuter ni à convaincre. Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'aurais essayé de la convaincre, de dire, mais non, mais attends, j'ai remarqué que Géasi m'a dit... Il n'essaye pas. Il a reçu une parole de Dieu, il va la donner, point. Et je raffole de la fin de ce paragraphe. Quand elle dit, oh, ne me mens pas à moi, ta servante, point. Cette femme fut enceinte, elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Il lui avait dit, à cette époque, l'année prochaine, tu auras un fils dans tes bras. Il donne la parole de Dieu, comme ça. C'est fantastique. Hein. Il ne la reprend pas pour son manque de foi, pour le fait qu'elle a dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me mens pas. Il a reçu une parole de Dieu, il la donne. Et vous savez, ça n'empêche pas Dieu d'agir. Alors ça, c'est un truc qui me plaît aussi dans ce texte. C'est parfois, il y a des gens qui sont un petit peu superstitieux. Ils disent, oh là là, si tu pries pas de telle manière, ou si tu ne réagis pas de telle manière, oh là, tu ne pourras pas avoir la bénédiction. Ben là, franchement, c'était mal parti. Hein. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me mens pas, moi, ta servante. c'était pas très accueillant pour la prophétie qu'il venait de donner, hein. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'agir. Juste le verset d'après, cette femme fut enceinte. Quand Dieu donne une parole, que Dieu veut quelque chose, qu'il ouvre une porte pour vous, quoi que ce soit qu'on demande, il n'est pas à cheval sur nos petites réactions, comme on pourrait le croire. Hein. Dieu est grand, il est bien au-dessus de nous. Bien au-dessus de nous. Et j'aime vraiment la bonté de Dieu, là, parce qu'elle a mal réagi, je suis désolée, elle n'a pas dit ce qui était au fond de son cœur, visiblement. Mais la parole de Dieu s'est réalisée, parce que c'était la parole de Dieu. C'est formidable. Dieu est sensationnel, moi, je trouve. Alors, je vais quand même me permettre un petit détour sur les prophéties. Vers Deutéronome 18-20. Attention aux paroles prophétiques. Je sais que c'est parfois très à la mode. Il y a des gens qui ont des dons de prophétie. C'est net, c'est biblique. Mais rappelez-vous ce texte de Deutéronome 18, verset 20. Je me permets de vous le lire parce que ça fait réfléchir. Le prophète qui aura l'arrogance de dire en mon nom. Donc c'est Deutéronome 18, verset 20. Le prophète qui aura l'arrogance de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas ordonné de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, encore pire, ce prophète-là sera mis à mort. Ah, quand même, Deutéronome, c'était la loi, c'est terrible. Et peut-être te diras-tu, j'aime bien cette phrase, comment reconnaîtrons-nous la parole que le Seigneur n'a pas dite? C'est assez amusant. Comment on va reconnaître la parole que Dieu n'a pas dite? Quand le prophète parle au nom du Seigneur et que la parole ne se réalise pas, qu'elle n'arrive pas, c'est une parole que le Seigneur n'a pas dite. C'est par arrogance que le prophète l'a dite, tu n'auras pas peur de lui. Je pense qu'on est dans une époque où, on le voit sur Internet ou ailleurs, où il y a des prophètes de toutes sortes et en tout genre. Il serait bon de se rappeler de ce texte. On ne donne pas une parole de Dieu n'importe comment, sans réfléchir aux conséquences. Sans réfléchir si elle vient vraiment de Dieu. Et je me souviens que le monsieur qui était à l'origine de notre église, de nos églises, parce qu'il en a créé trois, il nous disait toujours, attention, quand vous croyez avoir reçu une parole de l'Éternel, dites toujours, je crois avoir reçu. J'ai l'impression que Dieu m'a dit. Ne soyez pas catégorique. Il faut toujours, nous, on est humain, il y a toujours une marge d'erreur qui est possible. Et puis, on n'est pas comme ces prophètes de l'Ancien Testament qui étaient une sorte d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus est venu, c'est lui le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Donc, on peut recevoir des paroles prophétiques, mais toujours les donner avec prudence. Et si vous avez reçu des paroles prophétiques, mettez-les au pied du Seigneur, priez, parce que certaines seront vraies, elles se vérifieront, tout simplement parce qu'elles se réaliseront. Il y a des gens qui m'ont donné des paroles prophétiques qui se sont parfaitement réalisées. Mais soyons prudents. Hein. Et là, ça ne dépend pas de l'envergure de la personne qui vous donne, de ses capacités, de sa réputation, même de ses hauts faits. Pour tous les humains, une parole prophétique doit être prise avec un peu de doigté. La Bible dit... Oui, l'esprit des prophètes soumis aux prophètes, mais l'autre, quand vous entendez une prophétie, retenez ce qui est bon. Donc, soyons non pas incrédules, mais prudents, comme Jésus nous l'a demandé, comme l'apôtre Paul l'a confirmé. Donc, le prophète, ce n'est pas un don magique. Hein, ça, c'est important. On s'est posé la question. Maintenant, on va lire les versets 18 à 24. Donc, on avance. Deux rois 4, versets 18 à 24. Donc, Deux rois, chapitre 4, versets 18 à 24. Donc, elle a eu son enfant, la prophétie s'est réalisée. L'enfant grandit. Ah là là, on va vite, hein, c'est vraiment comme dans les films. Hein. Un jour qu'il était sorti vers son père auprès des moissonneurs, il dit à son père, « ma tête !» Le père dit à son serviteur, « porte-le à sa mère. » C'est les papas, ça. Et il l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Encore une fois, hein, l'isolement. Elle appela son mari et lui dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. » C'était les deux chevaux de l'époque. Hein.
Je cours trouver l'homme de Dieu et je reviens. Il dit, pourquoi vas-tu le voir aujourd'hui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Autrement dit, t'en fais pas, quoi. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, conduis-la et marche. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise.
Bon, ah. Là, c'est là qu'une belle histoire s'arrête. L'enfant, c'est l'époque des moissons, alors il fait chaud. Il va retrouver son père dans les champs, c'est le matin, visiblement, mais il fait déjà très chaud. Et vous avez vu dans l'histoire de Ruth, hein, que les moissonneurs, souvent, ils restent sur place, ils dorment sur place, sur l'aire de battage d'ailleurs, en général, parce qu'ils ne veulent pas qu'on vienne chercher leur récolte. C'est normal, c'est une protection avec les serviteurs. Ils restent tous sur place, ils mangent sur place, ils dorment sur place. Donc, il n'a peut-être pas vu son père depuis un jour ou deux, hein, puisqu'il est à la moisson. Rappelez-vous que tout se faisait à la main. Et le soleil tape, il a mal à la tête. Un serviteur le ramène à sa mère. Et l'enfant va mourir sur les genoux de sa mère vers midi. Waouh ! Ça fait mal, ça. Hein. Ça aurait pu être la fin tragique d'une très belle histoire. Alors, moi, je l'admire, cette femme. Hein. On a tous eu, les mamans, tous eu des enfants malades. J'ai été gâtée de ce côté-là. Et enfin, un enfant qui vous meurt dans les bras, c'est pas rien, quoi. Et on a connu un serviteur de Dieu, son copain est mort dans ses bras. C'est ça qui l'a amené au pied du Seigneur, d'ailleurs. Mais c'est terrible, ça l'a terriblement marqué. Elle aurait pu se résigner d'abord, imaginons. Elle aurait pu se résigner. Et puis, qu'est-ce qui se faisait à l'époque? Les lamentations. On commençait à pleurer avec les servantes, les serviteurs, et puis on faisait venir les pleureuses du village qui étaient professionnelles et qui pleuraient pour les enterrements. Alors, c'était la coutume, voilà. Elle aurait pu dire ça y est, vite. Et à cause de la chaleur, en plus, il y a un problème. Il fallait ensevelir les morts très rapidement. On est en pleine chaleur. Donc, il fallait qu'elle aille très vite. Sinon, quelqu'un va s'apercevoir que l'enfant est mort et ils vont commencer les pleurs, les lamentations, et puis préparer l'enterrement. Alors, elle ne se résigne pas, elle réagit complètement différemment de ce qu'on pourrait imaginer, elle abdique pas. Elle prend l'enfant, elle le couche sur le lit du prophète. Pourquoi cette idée? Il avait son lit, ce petit. Je suis sûre qu'elle se rappelait des histoires d'Élisée qui lui avait raconté comment le grand prophète Élie avait ressuscité un enfant en le mettant, l'enfant de la veuve, vous vous souvenez? Et il avait mis l'enfant sur son lit. Et donc, je pense qu'elle a la même réaction, elle a entendu ça, elle dit, bon allez, je vais le mettre sur le lit du prophète. Elle attend visiblement quelque chose de la part du prophète, un homme de Dieu qui lui avait promis cet enfant, ça s'est réalisé, c'est vraiment un homme de Dieu qui parle de la part de Dieu, alors je ne vais pas abdiquer. Elle ferme la porte. Elle va demander à son mari d'envoyer un serviteur avec une ânesse. Alors, les femmes de distinction, paraît-il, ne voyageaient jamais à pied. J'ai appris ça. Et le serviteur marchait à côté. Donc, elle s'asseyait sur l'ânesse et le serviteur marchait à côté. Et elle veut aller vite pour voir l'homme de Dieu. Il est à une... D'après ce qu'on a compris, on ne sait pas exactement où il était. La Bible dit qu'elle va au Mont Carmel, une vingtaine de kilomètres, plus ou moins. Son mari, évidemment, pose des questions quand même. Elle s'en va comme ça. C'est pas un sabbat aujourd'hui. Il ne serait pas dans les champs si c'était le sabbat. C'est pas un jour de fête. Pourquoi tu vas voir le prophète? Elle ne rentre pas dans les détails. Tout va bien. Tout va bien. C'est pas vrai, tout va pas bien, mais t'inquiète pas. Elle ne veut pas se retarder à discuter avec son mari. Parce que si elle commence à lui dire, parce que je crois que le petit, il est mort et que... Ouh là là, elle déclenche tout le système des deuils, des ensevelissements, c'est pas possible. Elle veut mettre sa confiance en Dieu, elle veut pas perdre de temps. Il faut que l'homme de Dieu réagisse à ce problème. Et elle va dire à son serviteur, t'arrête pas sans que je te le dise. Donc ça veut dire, peu importe si on rencontre des gens. Alors la politesse au Moyen-Orient, c'était vraiment quand on rencontrait un autre voyageur, on entamait tranquille une conversation. Vous savez ce que disent les Africains, vous avez les montres, nous on a le temps. Eh bien, c'était pareil au Moyen-Orient. On a le temps de discuter, de parler avec les gens. Et elle dit, pas question, tu t'arrêtes pas. Et puis, curieusement, Élisée Il habite au Carmel, donc en hauteur.
Il voit sur le chemin,
oh, mais on dirait que c'est la tsunamite. Et on va lire à partir du verset 20, toujours la suite, hein, 25. Donc on est dans 2 Rois 4, verset 25.
Elle partit donc trouver l'homme de Dieu au mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à Gehazi, son serviteur, « C'est cette tsunamite. Maintenant, cours à sa rencontre, je te prie. Dis-lui, vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien ?»
Ah, il soupçonnait quand même quelque chose. Hein. Il n'était pas dans les nuages. Pourtant, Dieu ne lui avait rien dit. Mais quand même, pour qu'une femme seule avec son serviteur vienne le voir un jour où il n'y avait pas de rassemblement religieux, de fête, c'était bizarre. Donc, il demande à Gehazi de poser les bonnes questions. « Vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien ?» Elle répondit « Tout va bien !» Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu dans la montagne, elle lui saisit les pieds. C'est un geste de supplication. Gehazi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit « Laisse-la, car elle est dans l'amertume. Le Seigneur me l'a cachée, il ne m'en a pas informée. » Alors, elle lui dit « T'ai-je demandé un fils, mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Elle dit, elle refuse de dire, mon fils est mort. C'est bien. Elle reste dans une position de foi et elle essaie de provoquer le prophète, de dire, écoute, je t'avais pourtant dit hein, de ne pas me promettre quelque chose qui n'arriverait pas. C'est arrivé, mais moi, je n'avais rien demandé. C'est important. Alors Gehazi, pourquoi elle ne lui répond pas? Elle ne veut pas perdre de temps, encore une fois. Et puis ce n'est que le serviteur. Ce qu'elle veut, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui a donné la parole prophétique. Et une fois arrivée auprès d'Élie, évidemment, là, elle entre dans la supplication. Mais vous avez vu, là, elle pose des questions. Et elle ne dit pas, il est mort. Bien sûr, Élisée, il comprend. Et il lui dit, laisse-la, elle est dans l'amertume. Ce n'est pas la peine de la repousser. C'est incroyable, hein, elle a quand même passé beaucoup d'obstacles pour en arriver là. Et curieusement, le Seigneur me l'a caché, il ne m'en a pas informé. Et d'après un commentateur, c'est la seule fois, alors je n'ai pas vérifié, mais on vérifiera l'année prochaine, c'est la seule fois où Élisée ne reçoit pas l'information de la part de Dieu. Donc ça arrive, et c'est rassurant. C'est pas magique un prophète, ça n'a rien de magique. Parfois, il peut ne pas recevoir l'information de la part de Dieu, et Dieu a ses raisons. Le prophète, il n'est pas dans la magie. Il a une relation avec Dieu. Et dans une relation, parfois, on dit ou on ne dit pas. Pour Élisée, qui a reçu la promesse de la part de Dieu, pour elle, je veux dire, Élisée a reçu la promesse de la part de Dieu, donc c'est le seul qui a le pouvoir de la confirmer, de ramener l'enfant à la vie. La naissance était déjà un miracle. Eh bien, le retour à la vie, ça sera un autre. Je pense qu'elle est dans cette optique. Waouh ! C'est fou. Enfin, vous vous mettez à sa place. Ça, c'est cette détermination. Elle refuse de dire il est mort, elle se contente de poser deux questions qu'il met sur la piste, évidemment. Elle s'appuie sur la réalisation de la promesse prophétique. La promesse s'est réalisée. Et sur la confiance en la parole du prophète. La dernière fois, Dieu est intervenu, la parole de Dieu s'est réalisée. Donc cette fois-ci, je veux le voir pour qu'il intervienne auprès de Dieu. Pour cette femme, c'est absolument terrible. Dieu lui avait accordé une énorme bénédiction alors qu'elle ne l'avait même pas demandé. Et après quelques années, son fils lui est enlevé. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je pense que tous, plus ou moins un jour ou l'autre dans la vie, on a un problème un peu de ce genre. Dieu répond à une prière, quelle qu'elle soit, matérielle, spirituelle, émotionnelle, peu importe, relationnelle. Dieu répond. Et puis, pan, il y a une cassure. Il y a un accident, et ça arrive pour des petites choses, ça arrive malheureusement aussi pour des choses plus importantes, et on se dit, oh. Et là, la réaction humaine de l'homme naturel, c'est, est-ce que ça vaut la peine que je continue? Donc elle souffre terriblement, mais elle n'abandonne pas. Elle reste dans la foi, elle ne se résigne pas. Celui qui a annoncé le miracle de la naissance pourra aussi lui annoncer la résurrection de son fils. Waouh ! D'autres auraient pu abandonner l'Éternel et se tourner vers les idoles. Vous vous souvenez, Saül ? Quand ça a plus marché bien dans son royaume, eh ben il est allé consulter une magicienne. Non, mais quand même, découragé. Combien de gens abandonnent le Seigneur parce qu'il s'est passé quelque chose comme ça dans leur vie? Et alors, et moi, j'admire cette femme, son courage, sa foi. Elle ne perd pas la foi. Elle retourne vers celui qui a donné au lieu de lui tourner le dos. Et souvent, je me souviens avoir dit ça à une dame qui avait tendance justement, il y a très très longtemps, à tourner le dos à Dieu parce qu'il n'avait pas répondu, parce que ceci, parce que cela. Je lui disais toujours, mais pourquoi tu refuses la bouée? Tu préfères te noyer? Parce que c'est le Seigneur qui tient la bouée? Tu préfères te noyer alors qu'il te tend une bouée? Et c'est dur hein, pour nous, en tant que chrétiens, devant des grosses difficultés, la tentation est toujours là de tourner le dos au Seigneur quand ça ne va pas. Et c'est dommage parce que c'est lui qui tient les clés, c'est lui qui a la solution à nos problèmes. Mais la tentation humaine est là, puis le diable ne se prive pas de nous dire, bah, tu vois, Dieu t'a laissé tomber, laisse tomber tout ça, c'est des fariboles. Elle a une autre qualité, elle est extrêmement déterminée. Alors j'ai regardé un petit peu tout ce qu'elle a vécu. D'abord le choc énorme de son fils qui meurt dans ses bras. Elle va le déposer sur le lit du prophète. Il fallait un peu de courage quand même pour déposer un enfant mort. Comme ça. Elle se prépare à partir sans donner d'explication précise à son mari. Elle tient bon. Elle ne s'arrête pas en route. Elle refuse même les explications à Géasi, le serviteur. Vous voyez la détermination, comment elle tient le choc. Et puis après, elle va refuser de quitter Élisée. On va voir ça. Rien ne peut l'arrêter jusqu'à ce qu'elle parle à Élisée. Même pas Géasi qui a essayé de la repousser. Là aussi, elle a vécu ça quand même. Être repoussée au moment où on vient faire sa prière, non mais quand même, vous imaginez, vous venez à une réunion de prière, on vous dit, oh non, allez hop, ce serait horrible. Donc, voilà. Il ne lui reste plus qu'un obstacle. C'est qu'elle veut qu'Élisée vienne avec elle. Waouh. Elle a bien passé tous les obstacles, mais celui-là, ça ne va pas être facile. Parce qu'Élisée, il a quand même son caractère et tout. Et on voit que souvent, il se sert de son serviteur, puisqu'il envoie Géasi, on va le voir, et il envoie Géasi mettre son bâton sur le visage de l'enfant, on va lire ça. Je m'étais arrêtée, voilà, il ne m'en a pas informé, ne me trompe pas. Verset 29 maintenant. Élisée dit à Géasi, passe une ceinture à terrain, prends mon bâton et va. Bâton, symbole de la puissance divine. Si tu rencontres quelqu'un, ne le bénis pas, ou ne le salue pas, suivant les traductions. Et si quelqu'un te bénit, ne lui réponds pas. Lui aussi, maintenant, il met la gomme, il va vite. Tu mettras mon bâton sur le visage du garçon. La mère du garçon dit, par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Elle savait ce qu'elle voulait, et Élisée a marché. Alors il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, il avait mis le bâton sur le visage du garçon, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il revient à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant « Le garçon ne s'est pas réveillé. » Voilà, encore un obstacle de plus. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup quand elle voit. Donc, elle a réussi à convaincre Élisée et ils partent ensemble. Et là, qu'est-ce qui arrive? Un encouragement? Ben non, pire encore. Géasi qui dit « J'ai fait tout ce que tu m'as dit, puis ça n'a pas marché. » Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir des obstacles comme ça. Une catastrophe, un obstacle, et encore un autre, et encore un autre, et encore un autre, et un découragement, et encore un autre, et encore un autre. Je ne sais pas comment elle tient. Elle craque? Non. Elle reste déterminée. Et alors, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à d'autres personnes dans la Bible qui ont été déterminées. Exode 33:15, Moïse avec Dieu. « Si tu n'y vas pas toi-même, ne me fais pas monter d'ici. Si tu ne viens pas avec moi. » Anne, quand elle prie, le prêtre la repousse, comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas découragée, elle continue. Juge 4:18, Barak et Déborah. Barak, chef de l'armée, Déborah, prophétesse, une des rares, hein, prophétesse et juge en Israël. Qu'est-ce que lui dit le chef de l'armée? Si tu viens avec moi, j'irai à la bataille. Mais si tu ne viens pas avec moi, j'irai pas. Il était déterminé, je veux que la prophétesse vienne avec moi. Elle m'a donné une parole du Seigneur. Et la pauvre Déborah, bon, elle y est allée, hein, et puis ils ont eu la victoire. Mais oui, il y a des gens comme ça qui sont déterminés. Et un autre qui a été déterminé, mais différemment. Vous rappelez le centenier romain? Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Oh, c'est pas la peine que tu te déranges.
Ah, les choses ont changé là.
Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Avec le Nouveau Testament, on rentre dans une nouvelle alliance. Dis un mot, il sera guéri. T'as pas besoin de venir avec moi. Je connais ta puissance. Et que ce soit un encouragement pour nous, parce que nous, on vit dans cette époque-là. On n'a plus des Élysées et des Élie. On a Jésus, qui est présent partout. Et qu'est-ce que dit Jésus au centenier ? Même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Ah, encore plus que notre petite tsunamite. Matthieu 28, 20 dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il est avec nous, il vient avec nous, il vit avec nous, il est à côté de nous. Quelle chance ! On n'a pas besoin d'aller sur le Carmel chercher le prophète. Ça, c'est extraordinaire. Donc, elle va faire comme Jacob quand il a lutté avec l'ange de l'Éternel. Vous vous souvenez ce qu'il avait dit ? Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Oh, elle tient les pieds d'Élisée, tu vas venir avec moi. Bon, je caricature un tout petit peu, mais c'est clair, elle insiste. Hein. Et alors, elle utilise quelque chose qui va vous rappeler normalement un texte. Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Elle est déterminée. Ça vous rappelle rien, ça ? Élie et Élisée. Quand Élie a été enlevé au ciel, à chaque fois, il dit à Élisée, écoute, maintenant, tu peux rester là, je vais continuer mon chemin, je vais aller là où Dieu m'envoie. Et à chaque fois, Élisée lui répondait, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Donc, est-ce qu'elle a entendu Élisée raconter ça ? Mais quelque part, elle lui a renvoyé, elle lui a renvoyé l'ascenseur. C'est ce que, autrement dit, c'est ce que tu as dit à Élie, et puis il t'a suivi. Hein ? Tu l'as suivi, il t'a laissé le suivre, plutôt. Et elle utilise la même phrase. Alors, peut-être c'était une phrase courante à l'époque, mais c'est aussi possible qu'elle ait entendu l'histoire et qu'elle ait gardé ça en tête. Parce que c'était une femme déterminée. C'est amusant quand même, parce que Élisée avait dit ça 3 fois à Élie. Elle le dit qu'une fois. Et Élisée la suit. Bon, alors après, il y a la déception. Gehazi qui dit « Le garçon ne s'est pas réveillé. » Alors, est-ce qu'elle craque ? Est-ce que là, franchement, moi j'aurais peut-être dit « Bon, bah, c'est fini, il a fait ce que tu as demandé, ça n'a servi à rien. » Mais ça nous montre aussi que ce n'est pas magique, hein, cette histoire de bâton. Il n'y a rien de magique là-dedans. Et il ne répond pas, Élisée. Il continue son chemin et elle continue avec lui. Il rentre à la maison et il monte tout de suite dans sa chambre. Là encore, j'aime ce verset. Il entre dans sa chambre, il ferme la porte et il prie. Ce que Jésus a repris. Hein. Il va se coucher sur l'enfant. Et on se dit, ben, où est-ce qu'il est allé chercher ça ? Eh bien, c'est ce qu'Élie avait fait, rappelez-vous, avec le petit enfant de la veuve. Il va se coucher sur lui ou au-dessus de lui. Et puis, il y a une première étape, l'enfant se réchauffe. Mais est-ce qu'il se réchauffe à cause de la chaleur humaine ou... En tout cas, la Bible dit qu'il se réchauffe. Et Élisée fait un truc bizarre. Apparemment, Élie n'a pas fait ça. Il fait les 100 pas dans la maison. Et c'est David Wilkerson qui disait que dans les moments difficiles de sa vie, il priait debout en faisant les 100 pas dans son bureau, parce que ça l'empêchait de s'endormir. Il va faire les 100 pas. Il est pourtant fatigué, il a fait 20 km à pied quand même. Hein. Mais il prie certainement pendant ce temps qu'il fait les 100 pas. Je ne pense pas qu'il pense à autre chose. Hein. Et il remonte, et là, il refait comme Élie, se remet au-dessus de l'enfant, il se couche sur l'enfant, et il éternue. L'enfant éternue 7 fois, et il ouvre les yeux. La tsunamite se prosterne, plus devant Dieu, je pense, que devant Élie, et elle reprend son enfant. Alors, je n'ai pas lu pour gagner un petit peu de temps, vous lirez le texte, je voulais juste résumer. Simplement, je voudrais terminer avec un témoignage de notre époque. Dieu ne fait jamais exactement la même chose. C'est merveilleux, il a ses façons de faire, le comment appartient à Dieu. Mais je voudrais terminer avec ce témoignage pour ceux qui étaient avec nous. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. On a entendu ce témoignage à Gagnères dans un rassemblement chrétien. C'était un médecin. On en a aujourd'hui avec nous. C'était un médecin chrétien qui est pasteur, je crois, vers le centre de l'Angleterre, si mes souvenirs sont bons. Et il avait l'habitude d'aller en Amérique du Sud tous les étés pour créer des dispensaires, pour soigner particulièrement les problèmes diarrhéiques des enfants. Et ils avaient des très bons résultats, ils avaient des bons médicaments et ça se passait très bien. Et en même temps, l'après-midi ou le soir, ils faisaient des réunions d'évangélisation pour que les gens connaissent le Seigneur Jésus. Histoire vraie. Et un jour, au cours d'une de ces réunions, le soir, qui était un peu loin du dispensaire, ils étaient allés dans des villages beaucoup plus loin, et il y a une dame qui vient avec un bébé, je ne sais pas, d'après ce que j'ai compris, c'était quelque chose comme 15 mois, 18 mois peut-être, un petit, qui était vraiment très malade, très très malade. Et d'ici, il avait pu être près du dispensaire, il y avait tous les soins, il y avait les médecins qui étaient là. Lui-même était médecin, mais apparemment, il n'avait pas emmené de médicaments, puis c'était bien avancé. Et pendant la réunion d'évangélisation, le bébé meurt. Il pense à ce texte et dit, on va prier pour sa résurrection. Pourquoi pas? Et il priait, 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 priait. Les heures passent, il ne se passe rien. Il est complètement découragé, il sort, il raconte ça, c'était très beau la façon dont il le racontait. Il sort, il dit, mais Seigneur, pourquoi cet enfant est mort? On a prié, ta parole est là, Élisée a fait, etc. Et au bout d'un moment, il sent Dieu lui parler dans son cœur. Vous savez, ces moments où Dieu vous dit vos quatre vérités. Et il sent que le Seigneur lui dit, pourquoi tu veux que cet enfant ressuscite? Pour ajouter un chapitre à ton livre? Il écrit des livres, ce monsieur. Ou parce que tu as de l'amour pour ces gens? Ou tu as mon amour pour ces gens? Et là, il se met à pleurer. Il dit, oui Seigneur, je suis désolé, c'est un peu ma fierté, mon amour propre, j'ai prié, il faut que tu m'exauces, il faut que l'enfant ressuscite. Et il demande pardon à Dieu pour ça. Il était plus concerné par sa réputation, par son amour propre, que par le problème de l'enfant et l'amour pour ces gens qui souffrent. Donc il demande pardon à Dieu, et là, il sent le Seigneur lui dire quelque chose de vraiment fou. Dit à cette femme de donner à boire à son bébé, de le mettre en position pour l'allaiter. Ah non Seigneur, je ne peux pas faire ça, on a prié des heures, il est décédé, ce n'est pas possible. Il était médecin, il était quand même capable de savoir si un enfant était mort ou pas. Et il sent que le Seigneur est ferme. Là il dit, mais je vais complètement me ridiculiser. Bon, donc il y va, et il dit que ça a été dur, hein, de demander ça à la maman, qui était en larmes évidemment, etc. Mais elle le fait, certainement parce que le Seigneur l'a convaincue. Et il ne se passe rien. Il prie, il pleure. Et là, il ressent cette souffrance, ce chagrin de la maman devant cet enfant qui meurt dans ses bras, comme dans notre histoire. Et il reprit, mais avec une intensité, avec tout l'amour du Seigneur pour cette femme, cette famille. Et l'enfant est ressuscité. Mais lui, il avait appris une leçon. Les miracles, ce n'est pas pour notre amour, ce n'est pas pour notre orgueil, ce n'est pas pour notre amour propre. C'est parce que Dieu aime ses enfants. C'est parce que Dieu aime les humains qu'il a créés. Et c'est la seule motivation. Et c'est pour la gloire de Dieu, bien sûr, en premier. Et c'est parce que Dieu, mais pour Dieu, c'est parce qu'il nous aime. Et ça n'a rien à voir avec des bouquins qu'on peut écrire, des conférences qu'on peut faire, des messages enflammés qu'on peut faire. Non, Dieu nous aime. Et il veut glorifier son nom. Et prions, je crois, prions pour des miracles. Moi, j'y crois, j'en ai vu, je sais que ça existe. Mais pas pour notre bénéfice personnel, pas pour dire on est la meilleure église, ou on est ceci, ou un tel dans notre église, il prie, tous les gens sont guéris, bla, bla, bla. On n'est pas là pour ça. On est là pour glorifier le Seigneur, comme André disait tout à l'heure. Et l'amour de Dieu pour ses créatures qui remplissent nos cœurs. Et on verra certainement beaucoup plus de choses si on est motivé de cette manière-là. Amen.